Donc, on poursuit notre série. On a une courte série de 4 semaines qu'on a intitulée « À qui tu parles, annoncer l'Évangile ». Et ça, c'est... Ça, c'est l'objet de notre série, vraiment. Et ce qu'on est en train d'explorer à travers cette série-là, c'est comment l'Évangile s'adapte à travers toutes les cultures, à travers toutes les époques. L'Évangile est riche. Et en fait, c'est frappant, c'est saisissant lorsqu'on étudie juste déjà le Nouveau Testament, mais après ça, le début, on appelle ça l'histoire de l'Église, les premiers siècles après le départ de Jésus, et on voit que l'Évangile est en expansion incroyable à travers l'Empire romain, ça va s'imposer, ça va causer même un paquet de soucis aux dirigeants politiques qui disent « mais qu'est-ce que cette nouvelle religion-là qui est en train de s'imposer partout? » Et très rapidement, en quelques siècles, l'Empire romain est carrément envahi par l'Évangile. Et ça continue encore aujourd'hui. Dans plein de pays, même où on essaie de faire taire l'Évangile, l'Évangile se répand parce que l'Évangile est si riche qu'il vient s'adresser à toutes les cultures, à des gens de toute ethnicité, de toute classe sociale. Je parlais dernièrement avec un ami qui est pasteur à Vancouver, puis il me partageait combien il voit de personnes qui viennent d'Iran, particulièrement des Farsis, qui se convertissent au christianisme. C'est vraiment fascinant, c'est très, très beau, c'est touchant. Et donc, ce matin, on va poursuivre avec cette série-là. Voici comment je résumerai la série. L'Évangile de Jésus-Christ est si riche qu'il n'a pas besoin de changer pour être présenté dans toutes les cultures, dans toutes les circonstances. Plus nous le découvrons, plus nous en sommes émerveillés et plus nous devenons polyvalents pour l'annoncer. Et la semaine dernière, on a commencé, hein, je vous ai dit, c'est un peu comme Tintin au Congo. Donc, la semaine dernière, c'était Jésus chez les Juifs. Cette semaine, Jésus chez les Samaritains. La semaine dernière, Jésus présente l'Évangile à Nicodème. Nicodème, un homme juif, un grand théologien, un érudit, et c'est Nicodème lui-même qui vient vers Jésus. Cette semaine, ça va être un peu différent. Jésus va ouvrir la conversation, une conversation improbable, parce que Jésus attend sur le bord d'un puits. Ses disciples sont allés chercher de la nourriture au prochain village. Jésus se repose là. Une femme vient seule et Jésus va engager la conversation avec elle. C'est une conversation improbable déjà parce qu'un homme, à cette époque-là, parle à une femme étrangère, mais on est aussi en Samarie et donc il va s'adresser à une Samaritaine et les Juifs ne parlaient pas, pour ainsi dire, aux Samaritains. Voici ce qu'on lit dans un commentaire biblique pour parler des Samaritains. Puis ensuite, on passe à la lecture des Écritures. Les Samaritains étaient considérés par les Juifs comme des métis méprisés, issus des politiques de réinstallation des Assyriens, qui, après avoir mis à sac le royaume du Nord, donc le Nord d'Israël, en 722 avant Jésus-Christ, transportèrent de grands groupes de Juifs conquis vers d'autres sites conquis et repeuplèrent les sites partiellement libérés avec d'autres peuples conquis. Donc, c'était une manière de déstabiliser politiquement. Tu partais avec l'élite du pays, tu les transposais, tu les transportais dans un autre de tes territoires que tu avais conquis. Et donc, en les déstabilisant comme ça, c'était plus facile de les dominer. Et tu amenais d'autres personnes dans ce territoire-là. Tu semais en quelque sorte la zizanie dans un territoire conquis et ça te permettait de régner plus facilement. Maintenant, ces peuples-là se sont mélangés avec le temps. Et donc, lorsque les Juifs reviennent d'exil et qu'ils veulent rétablir une nation très pure de sang, ils mettent carrément à l'écart les Samaritains. Et voici ce qu'on lit ensuite. « Les Samaritains, en réponse à leur rejet, développent des politiques restrictives contraires telle que l'adoption d'un canon ne contenant que le Pentateuque. » Technique un petit peu ce matin. L'Ancien Testament dans la Bible, une grande partie de la Bible, c'est l'Ancien Testament. Les 5 premiers livres, on les appelle le Pentateuque. Et donc, les Samaritains ne s'en tenaient qu'au Pentateuque. C'est tout ce qu'ils ont gardé. Se sont élus un mont pour adorer Dieu, pour ne pas aller à Jérusalem. Vous nous rejetez, on va voir notre lieu d'adoration. Donc, ça va être sur le mont Garizim. Et progressivement, ils vont en venir à s'éloigner des Écritures et avoir leur propre vision de Dieu, leur propre définition de Dieu. Ça, c'est les Samaritains. Puis Jésus va engager une conversation très improbable ce matin avec une femme samaritaine. On va aller dans la prière, on va écouter la lecture de la parole. Vous pouvez tourner avec nous dans Jean 4, on va dans un mot de prière. Père éternel, on vient dans ta présence pour recevoir ta parole ce matin. On veut avoir un cœur disponible afin que tu viennes nous parler, afin que tu viennes nous instruire, afin que tu viennes changer des choses en nous, Seigneur. Dans ce passage, on voit Jésus que tu vas vers cette femme, tu la connais, tu l'écoutes, tu lui parles, tu la guides vers toi, le sauveur des hommes. D'une manière spéciale aussi parce que tu te révèles pratiquement plus à elle qu'à Nicodème. Seigneur, je te prie de parler à nos cœurs ce matin. Et s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas intimement, viens te révéler à lui et à elle. Et si nos cœurs se sont endormis, Seigneur, si à nos yeux, tu n'es plus si merveilleux, viens nous réveiller, Seigneur. Viens nous réveiller de ce sommeil spirituel, Seigneur. On veut entendre ta voix ce matin à travers ta parole. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.
Bon matin à tous. Alors, le passage biblique de ce matin est dans Jean au chapitre 4, les versets 10 à 24, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Jean, chapitre 4, au verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. »
Merci, Danny. Donc, ce matin, on retrouve Jésus qui va avoir une conversation improbable. Et probablement que si on faisait le tour, on prenait le temps de partager ensemble ce matin, plusieurs d'entre vous, vous avez déjà eu de ces conversations pour annoncer l'Évangile à une personne vers qui vous ne seriez pas allé si ce n'avait été du fait que vous connaissez Jésus-Christ. Puis en fait, même probablement qu'un bon nombre d'entre vous, vous êtes ici ce matin comme le fruit d'une conversation improbable. Quelqu'un vous a abordé, quelqu'un de surprenant, quelqu'un qui normalement vous n'aurait pas abordé, mais à cause de l'Évangile de Jésus-Christ, a osé ouvrir la bouche pour vous parler. La semaine dernière, Nicodème est allé vers Jésus. Des fois, les gens viennent vers nous, nous posent des questions, regardent les œuvres dans notre vie, sont attirés parce qu'on est différents, viennent nous poser des questions, mais souvent, c'est nous qui allons ouvrir la conversation. En vente, on appelle ça faire du cold call. Des fois, c'est intimidant. Mais on va voir ce que Jésus fait avec cette belle conversation-là. Et voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. L'Évangile nous ouvre à de nouvelles relations avec les hommes, mais surtout à une relation vraie et puissante avec Dieu qui rassasie l'âme. Je répète ça, l'Évangile nous ouvre à de nouvelles relations avec les hommes, mais surtout à une relation vraie et puissante avec Dieu qui rassasie l'âme. L'Évangile ouvre de nouvelles relations, littéralement. Jésus va partir d'une banalité. Jésus aborde cette femme-là avec quelque chose d'absolument banal. Il tente une conversation avec elle. Puis les conversations avec Jésus se terminait pas toujours bien. Hein? Il arrivait que Jésus doive même fuir des lieux parce que carrément, on attentait à sa mort, on voulait le mettre à mort. Mais Jésus va l'aborder avec quelque chose d'assez banal. Cette dame-là est en train de puiser de l'eau. Mais pour que Jésus ait cette conversation-là, il faut qu'il quitte les préjugés sociaux. Comme on l'a dit, ce n'était pas normal pour un juif à l'époque de parler à une femme étrangère, de lui adresser la parole. Ce n'était pas dans les coutumes de l'époque. Il y a des choses aujourd'hui qui ne se font pas. À l'époque, ça ne se faisait pas. Mais plus encore, parler à une femme seule. Qu'est-ce qu'on va en dire? Et plus encore, parler à une Samaritaine. Cette femme vient puiser de l'eau, puis elle est seule, ce qui nous aide peut-être à comprendre le style de vie qu'elle avait. Souvent, les femmes, ça revenait aux femmes d'aller puiser de l'eau. Elles y allaient en groupe, elles étaient ensemble. Ce n'était pas une tâche facile, c'était une tâche lourde. Les puits étaient régulièrement 100 pieds et plus de profond. Donc, il fallait remonter l'eau, il fallait transporter l'eau. C'est vraiment une lourde tâche. Et cette femme-là est seule. Et on va découvrir un peu plus tard que c'était probablement une femme assez marginalisée par son style de vie, par des choix de vie qu'elle avait fait. Volontairement ou non, son style de vie devait la mettre à l'écart. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est seule lorsqu'elle va puiser de l'eau. Puis en fait, je vais dire quelque chose d'assez terrible, mais boire de l'eau qui t'était donnée par une Samaritaine, c'était prendre le risque dans la tête des Juifs de te souiller rituellement, de te rendre impropre. Nous, on ne ferait pas ça. Mettons que tu marches sur la rue à Montréal, il y a un itinérant qui t'offre sa bouteille d'eau, petite gorgée. Vous allez me dire, c'est différent. C'est vrai, je comprends. Quand même, on a tous des préjugés. On a tous des préjugés. Il y a tous des gens qui, à nos yeux, sont des marginaux. Encore aujourd'hui. Il y a des personnes à qui vous pouvez penser, avec qui vous ne voudriez pas engager une conversation. Hier, c'est drôle, on est allé faire des commissions, puis on passe dans une boutique. Il y a un monsieur, il devait avoir au moins 6 pouces de plus que moi, bien baraqué, full tatou, beau bonhomme, vraiment le beau bonhomme. Mais il était là comme ça. Il regardait pendant que sa blonde ou sa femme, je ne sais pas trop, était en train de magasiner. Puis j'ai comme fait un détour, je n'ai pas cherché son regard. Je ne me suis pas dit, ben, faut que j'engage un regard avec ce gars-là. Non, je suis resté tranquille. Non, mais c'est vrai, j'aime ça saluer. Dans une boutique, quand je croise un regard, spontanément, je vais dire bonjour. J'aime ça le faire. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu ce réflexe-là. Il y a peut-être juste moi qui ai des préjugés. Voyez-vous, Jésus, au contraire, est attiré par les marginaux. Systématiquement, à travers les évangiles, Jésus est attiré par les marginaux. En fait, on lit dans Matthieu 11, 19, « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et il dit, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, c'est-à-dire des collecteurs de taxes, c'est-à-dire des transfuges qui travaillaient pour l'Empire romain, et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » La réputation de Jésus, c'est qu'il se tenait avec les tout croches. C'est sa réputation. Puis en fait, un jour, Jésus s'est même fait traiter de Samaritain. Dans Jean 8, 48, les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? » C'était une insulte à l'époque. Comme si se faire traiter de Québécois, c'était une insulte. « Et que tu es un démon! » Moi, en regardant Jésus, je me dis, « Ah, il a pris ça comme un compliment. » Depuis que l'Évangile est entré dans ta vie, est-ce que tu as appris à aller vers des gens vers qui tu n'irais pas naturellement? Est-ce que la disposition naturelle de tout être humain à avoir des préjugés, à se tenir loin de personnes avec qui il y a un malaise, il y a un inconfort, il y a des craintes, il y a des doutes. Hein, les préjugés viennent de toutes sortes de choses. Des fois, ça peut être juste une crainte. Depuis que l'Évangile est entré dans ta vie, est-ce que tu es davantage ouvert à mettre de côté tes préjugés? Parce que l'Évangile produit ça. Je veux dire, pour devenir chrétien, tu Tu vas changer le regard que tu déposes sur toi-même. Tu vas dire, je suis un pécheur. N'est-ce pas? C'est vrai? Pour devenir chrétien, il faut que tu reconnaisses le besoin de recevoir la grâce de Dieu. Que Dieu te fasse grâce, que Dieu te pardonne. À partir de ce moment-là, qui es-tu pour conserver des préjugés sur qui que ce soit? En fait, le seul préjugé qu'un chrétien a vraiment le droit de conserver, c'est celui de dire « Ah, un pécheur! Ah, un pécheur! Ah, un pécheur! » Parce qu'on est tous pécheurs. Ça, ça va, ça tient la route, c'est bon! Depuis que tu es chrétien, est-ce que tu as observé dans ton attitude envers les gens autour de toi un changement de posture, une ouverture, un cœur qui est plus ouvert à aller vers qui que ce soit? Et la réponse, c'est toi qui la possèdes. Pense à ton travail. Pense à l'école, au cégep, au secondaire, peu importe. Est-ce que des gens pensent à cette personne que tu dis « Wow, je pense qu'il faudrait que je prie avant de lui parler. » C'est sûr qu'il y a une personne comme ça. T'as un préjugé que c'est un air bête, qui ne voudra pas te parler, qui ne te recevra pas. T'as un préjugé que c'est quelqu'un de pas intéressant ou tu vas t'ennuyer. T'as un préjugé qui n'est peut-être pas tout à fait bien dans sa tête, va te dire des choses qui vont te mettre mal à l'aise. T'as des préjugés qui disent « Je pense que je ne voudrais pas être vu en présence de cette personne-là trop souvent, ça regarderait mal. » Depuis que l'Évangile est entré dans ta vie, est-ce que tu ressembles plus à Jésus? Qui franchissait constamment les préjugés sociaux, tellement que c'était sa réputation de se tenir avec des gens pas fréquentables. C'est tout le contraire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, jeûnait, il vivait dans le désert, il avait l'air d'un mystique spirituel flyé, littéralement. Jésus, lui, sa réputation, c'est bien où on sait, bien, il rentre dans un village, il trouve le débauché de la place, il rentre manger chez eux. Ça, c'est la réputation de Jésus. Et ce n'est pas que lui-même se débauchait. C'est que Christ ne perd pas son identité parce qu'il fréquente un pécheur. Pour Jésus, s'approcher d'un pécheur, s'approcher de quelqu'un qui est tout croche, s'approcher de quelqu'un qui a une vie dérangée, qui a une vie déréglée, ça n'affecte rien dans son identité. Si l'Évangile est entré dans ta vie, si tu es chrétien, ton identité se trouve où maintenant? Dans ta voiture, ta tenue vestimentaire? Où est-ce que ton identité se trouve? Quand tu deviens chrétien, tu reconnais que tes pécheurs, tu acceptes la grâce de Christ, pardonné de tes péchés, tu dis maintenant, même si j'ai encore une disposition à pécher, je suis un saint. Pas parce que je suis parfait, mais parce que j'ai été sanctifié. Dieu m'a pardonné mes péchés. Je suis chrétien. Et si tu es chrétien, fréquenter qui que ce soit ne te fera pas perdre ton identité. Quoi que les gens disent, quoi que les gens pensent, si c'est clair dans ton esprit, moi je suis un disciple de Jésus-Christ, je peux aller vers n'importe qui. Ce n'est pas eux qui vont dicter comment je vais vivre, ce que je vais faire. Je peux aborder les marginaux. Je connais mon identité est claire. Elle est en Jésus-Christ. Je suis chrétien. Voyez-vous, Jésus avait cette réputation d'aller vers les gens de mauvaise vie. Depuis que l'Évangile est rentré dans ta vie, depuis que Jésus est entré dans ta vie, est-ce que les préjugés tombent et tu franchis ces barrières-là? Et vous savez quoi? Si vous dites, je vais être franc, j'ai encore plein de préjugés. Bien, de la même manière que la semaine dernière, je vous ai dit, la meilleure place pour se pratiquer à présenter l'Évangile, c'est avec un chrétien. Il est favorable à entendre ton message. Bien, la meilleure place pour faire tomber les préjugés sociaux, c'est dans l'Église. Et Dieu est bon, on a une Église tellement diversifiée, de couleur, d'origine, de génération, de situation économique. Et l'Église est un endroit par excellence. Les barbecues cet été, là, c'est vraiment le moment d'aller vers des gens. Tu dis, j'ai toujours voulu lui jaser, mais j'ai pas osé franchir ça. Après l'Église, restez. Restez à l'extérieur après. Allez vers quelqu'un que vous connaissez pas. N'allez pas seulement vers ceux que vous connaissez. Allez vers quelqu'un que vous connaissez pas. Connectez ensemble. Si l'Évangile est dans ta vie, les préjugés doivent tomber, tu dois être porté à aller vers ces gens-là. Et on n'est pas parfait, je vous ai partagé hier. Hier, j'ai fait un petit détour. C'est pas un Samaritain, il m'intimidait. Voyez-vous, l'Évangile nous connecte à l'humain. C'est ça qu'on voit avec Jésus. L'Évangile nous connecte à l'humain. La semaine dernière, on était dans Jean 3, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a aimé le monde. C'est pour ça qu'il a donné son Fils. Il a aimé le monde. Il a aimé les marginaux. En fait, tout l'Évangile se résume dans le fait que Dieu, le Fils, est devenu un homme. L'incarnation, il est venu vers nous, il est venu vers les marginaux, il est venu vers les pécheurs, il est venu marcher parmi nous, il a côtoyé des pécheurs. Lui, Dieu, le Fils, s'est fait un homme. L'Évangile nous connecte à l'humain. Et une des pires choses que tu pourrais faire comme chrétien, c'est dire, avant j'étais un des leurs, je vivais le même style de vie qu'eux, parce que je ne connaissais pas Dieu. Maintenant, je ne les fréquente plus parce que je suis chrétien. Je ne sais pas quel Jésus t'a découvert, quel évangile t'a reçu, mais ce n'est pas ce Jésus-là. Parce que sa réputation à lui, c'était d'aller vers les gens de mauvaise vie, sans entrer dans leur style de vie, sans tomber dans les mêmes péchés. Avant, je ne connaissais pas Christ. Pour moi, être avec eux, c'était ma chute. Maintenant, je suis chrétien. L'Évangile nous connecte à l'humain. Ça ne nous amène pas à se retirer dans nos tours d'ivoire de chrétiens, puis on vit seulement de chrétiens constamment. Mais non, je sais qui je suis. Je peux aller vers d'autres personnes. L'Évangile connecte à l'humain. L'Évangile ouvre de nouvelles relations. L'Évangile comble nos besoins intérieurs les plus secrets. C'est le deuxième point. L'Évangile comble nos besoins intérieurs les plus secrets. Jésus aborde cette dame-là avec une requête très banale. « Est-ce que tu pourrais me donner de l'eau? J'ai soif, on est à un puits. » C'est assez banal. Mais en fait, il veut lui parler de soif beaucoup plus grande qu'il habite. Parce qu'on a tous des soifs très profondes, des désirs, des appétits, des cravings qui sont là en nous, qui guident à peu près tout ce qu'on fait dans la vie. Jean 4, 10 à 14, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? » Donc, l'histoire racontait que ce puits-là avait été creusé par Jacob, un des patriarches des Juifs, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif, et de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il y a un très beau passage dans l'Ancien Testament, dans les livres prophétiques, dans le livre de Jérémie. C'est un passage qui a bouleversé un moment important dans ma vie. Je vais vous partager ça très brièvement. Donc, c'est dans Jérémie, au chapitre 2, verset 13. Prenez-le en note, prenez le temps d'aller le relire. Et prenez le temps de répondre à la question qui vient avec ce passage-là. Le prophète Jérémie parle au nom de Dieu et dit, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Voyez-vous, la définition du péché, c'est de se détourner. C'est de se détourner de Dieu pour se tourner vers des citernes crevassées, pour essayer d'étancher une soif que Dieu seul peut étancher, que Dieu seul peut combler. Et quand on s'attend à ce que des êtres humains, à ce que l'amour terrestre, la santé, la carrière, toutes des choses bonnes, viennent étancher nos soifs les plus profondes, ces soifs que Dieu seul peut combler, on prend des choses bonnes et on en fait des citernes crevassées. Et il y a de cela, je me souviens même plus combien d'années, première conférence de T4G, je l'ai déjà partagé, je pense, ça fait longtemps à l'église. John Piper est en train de prêcher, le prédicateur qui a le plus influencé, à part pour mes pasteurs, le prédicateur qui a le plus influencé ma vie. Et John Piper est en train de prêcher. À l'époque, mes enfants étaient tout petits, puis j'avais une peur maladive qu'il leur arrive quelque chose. Je vous l'ai déjà partagé à plusieurs reprises. Mais voici le contexte où Dieu a fait quelque chose dans mon cœur. J'avais une peur maladive. Je voulais les protéger de tout ce qui pourrait arriver. Et lorsque je priais, quand mes enfants prenaient l'autobus, je ne le verbalisais pas, mais dans mon cœur, la prière que je faisais, c'était quelque chose comme ceci. « Dieu, je sais que tu es bon, je sais que tu es tout puissant, et je sais que tu pourrais permettre qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Je te prie de ne pas le faire. » Et donc, j'étais à quelque part en train de dire, « Je sais que tu es bon, je sais que tu aimes mieux mes enfants que moi, mais je te demande de les protéger de toi, si jamais tu voulais permettre quelque chose dans leur vie. » Mes enfants étaient pour moi une citerne crevassée, parce que mon bonheur, ma sécurité, ma paix reposaient dans leur sécurité. C'en était maladif tellement que je ne pouvais pas les confier librement à Dieu. Je n'avais pas confiance dans celui qui a donné son fils pour moi pour dire, « Ces enfants-là, c'est toi qui me les as prêtés, je les laisse entre tes mains, Seigneur. Tu les aimes mieux que moi, tu les as plus à cœur que moi. » Et ce jour-là, John Piper était en train de prêcher et il était dans ce passage-là. Il parlait des citernes crevassées et c'est devenu limpide devant mes yeux. J'ai dit, mes enfants sont mes citernes crevassées. Je me détourne de Dieu, de cette sécurité, cette paix que j'ai en Dieu, parce que je voudrais protéger mes enfants de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, ces enfants-là sont à toi. Tu viens les chercher quand tu veux, comme tu veux, parce que tu les aimes mieux que je les aimerai jamais. Et Dieu m'a accordé une grâce dans mon cœur. J'ai vu mon cœur être libéré, détaché, pas de les aimer, mais de tout contrôler autour d'eux, pour les laisser entre les mains de Dieu. Lorsque Jésus dit qu'il vient donner une eau qui rassasie, une eau vive, c'est que cette eau-là ne peut venir que de Dieu. Et nous avons la tentation constante dans nos vies de se détourner de Dieu pour placer toute notre affection, celle qui doit être trouvée en Dieu. Chercher à être comblé de désirs, d'aspirations profondes en nous vers des citernes crevassées. Ça peut être ton épouse, ça peut être ton époux, ça peut être ta carrière, ça peut être ta santé, ça peut être des péchés. Tu te tournes vers la pornographie pour essayer de soulager ton stress, puis je sais pas quoi. Alors qu'un bon temps de prière avec Dieu te donnerait tout ce que la pornographie te donnera jamais et ne détruira pas ta vie, mais va l'édifier. Est-ce que tu as des citernes crevassées dans ta vie? Tu essaies d'aller assouvir une soif de l'âme profonde qui est là, mais tu vas vers des choses qui fuient, qui ne peuvent pas te rassasier, qui ne peuvent pas combler cette soif-là, parce que seul Dieu peut le faire. Jésus va vers cette femme et il lui dit, « Si tu savais qui je suis, si tu connaissais l'eau que je peux te donner, tu dirais, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. » Et c'est ce que cette femme lui dit. Elle lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, » au verset 15, « afin que je n'aie plus soif. » Évidemment, elle ne saisit pas tout encore à ce moment-là. « Et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle dit, « Aïe, aïe, OK, tu as une eau magique qui va faire que j'aurais pu à me taper le puits à tous les jours à venir chercher de l'eau. C'est génial, j'en veux. » Puis là, Jésus va aller vers ses soifs. Ses soifs à elle, ses cravings à elle. Jésus lui dit, parce que Jésus la connaissait, « Appelle ton mari. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu vis avec un homme, tu n'es pas marié. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Cette femme-là était une femme marginale, marginalisée. Elle vivait chez les Samaritains, elle aurait pu avoir une vie samaritaine. Pour des raisons qu'on ne connaît pas, elle avait eu plusieurs hommes dans sa vie et elle ne vivait pas dans le mariage. Et à cette époque-là, il n'y avait pas toutes les confusions de notre époque. Cette valeur-là du mariage était très, très claire. Et c'est peut-être pour ça qu'elle était seule au puits. Parce que c'était une femme marginalisée. Et sans connaître toute son histoire, déjà on voit qu'elle a une soif. Une soif d'amour, une soif d'affection, une soif d'identité, une soif d'accueil. Je ne connais pas son histoire, mais cette femme-là, pour avoir cette vie-là, poursuivait des choses que Dieu seul peut combler. Elle est comme chacun d'entre nous, on veut être aimé, on ne veut pas souffrir de solitude, on veut trouver un sens à notre existence. Quel que soit notre âge, hein? Tu peux avoir 13 ans, puis tu es là, puis tu te dis, « Qui suis-je? » Déjà, si tu es chrétien, tu as répondu à la question la plus importante de ta vie, la plus importante pour tous les êtres humains. Tu as 13 ans, tu décides de placer ta foi en Jésus-Christ, de suivre Jésus-Christ. Tu as répondu à la question la plus importante. Toutes les autres deviennent secondaires. Tu sais qui tu es. Oui, mais qu'est-ce que je suis appelé à faire dans ce monde? Tu es chrétien. Tu es appelé à annoncer l'Évangile, à faire des disciples. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire comme carrière? On trouvera ça en route, mon ami. Tu as répondu à la question la plus importante. Cette femme-là est comme chacun d'entre nous. Elle désire être aimée, elle désire connaître son identité, elle ne veut pas souffrir de solitude, elle veut trouver un sens à son existence et ça la conduit dans toutes sortes de choses et dans cette vie marginalisée. L'Évangile vient combler ses soifs dans ta vie, dans la mienne, dans la vie des gens autour de nous. Et lorsque nous annonçons l'Évangile, c'est là qu'on espère aller dans la conversation. C'est quoi ces soifs qui t'habitent, qui font que cosmétiquement, tu sais, ta vie semble se tenir, mais dans le fond, quand tu vis des nuits d'angoisse, dans le fond, quand tu te poses la question, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je maintiens le chaud? Tout se tient, ma vie semble bien aller, le travail, tout ça. Pourquoi je fais tout ça? Tu sais, quand ces questions-là viennent, c'est là que tu es en train d'aller vers ces soifs-là qui t'habitent, que Dieu seul peut combler. Et lorsqu'on annonce l'Évangile, c'est ça qu'on veut adresser avec eux. Dieu dit dans Ésaïe 55, je vous lis 5 versets, très très beau. Ésaïe 55, 1 à 5, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Et quand nous allons annoncer l'Évangile aux nations qui ne connaissent pas Dieu, à nos voisins qui ne connaissent pas Dieu. » Je parlais avec un pasteur dernièrement, il parle avec une dame québécoise, francophone de 40 ans, qui n'avait aucune notion de savoir qui est Jésus. Ce pasteur-là ne vient pas du Québec, il dit, « J'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça. Bienvenue au Québec! » Et donc, lorsqu'on annonce l'Évangile, on dirige les gens vers ce Dieu qui veut rassasier l'âme gratuitement. C'est gratis. C'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Cette femme-là mène une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Elle ne vit pas dans le mariage, comme Dieu nous l'enseigne. Et à l'époque, c'était très clair pour elle. Elle savait, l'époque était claire. Aujourd'hui, l'époque est confuse. Puis Jésus va vers elle et lui parle. Il lui demande de l'eau, mais pour lui offrir l'eau qui t'amène dans la vie éternelle. Cette femme-là est partie de chez elle ce matin-là pour aller chercher de l'eau à un puits, et elle est rentrée chez elle avec la vie éternelle. Parce qu'elle a rencontré le Messie, le Sauveur des hommes, Jésus-Christ, et elle a cru en lui. Et nous savons qu'elle a cru en lui parce qu'elle est partie courir au village. Puis elle a dit à tout le monde, « J'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé le Messie. » Cette femme-là est sortie d'elle pour aller chercher de l'eau. Elle a fait une rencontre improbable, elle a eu une conversation improbable. Et ce soir-là, lorsqu'elle s'est couchée, elle croyait en Jésus-Christ. Toutes ses soifs, les plus grandes, les plus existentielles, pouvaient être rassasiées en Jésus-Christ. On a dit au début de l'exposé, l'Évangile nous ouvre de nouvelles relations avec les hommes, mais surtout une relation vraie et puissante avec Dieu qui rassasie l'âme. Si l'Évangile nous amène, comme Jésus, à aller vers des gens puis des conversations improbables, l'Évangile nous conduit surtout à entrer dans une relation riche, puissante, une relation qui change tout. Et c'est le dernier point ce matin. L'Évangile conduit à une relation divine, puissante. C'est la découverte que cette femme-là a faite cette journée-là. Voyez-vous, l'adoration est l'impulsion du cœur la plus puissante qu'un être humain peut expérimenter. L'adoration est l'impulsion du cœur la plus puissante qu'un cœur humain peut expérimenter. Jean 4, versets 18 à 22, « Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Puis au verset 23-24, il dit, « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Le mot pour adorer qui est là est intéressant. Un mot grec, proskuneo, ça veut dire en gros « embrasser ». Et donc, on trouvait beaucoup, entre autres chez les Perses, cette tradition. Si tu rencontrais ton égal, vous allez faire des grimaces, si tu rencontrais ton égal, tu l'embrassais sur la bouche, homme, femme, n'importe qui. On ne fera pas ça tantôt, d'accord? Si je vous donne un saint baiser, ça va être sur une joue, ça va? Mais à l'époque, donc, un petit bec sur la bouche, on est des égaux. Sur la joue, tu es un peu supérieur à moi. Mais si je rencontrais un roi, un empereur, un prince, je m'agenouillais par terre et je lui envoyais un baiser parce que je n'étais pas digne de le toucher. Et c'est ce mot-là qui est là. Lorsque je vous dis que l'adoration est l'impulsion du cœur humain la plus puissante qu'on peut expérimenter, tantôt on parlait des citernes crevassées. Quand tu découvres qui est Jésus-Christ, quand tu découvres qui est Dieu et que tu commences à l'adorer, ton cœur est prosterné comme si tu étais physiquement prosterné par terre. Et vois-tu, tu ne peux pas te prosterner devant deux empereurs en même temps. S'il y avait plein de rois qui venaient ici, tu choisirais le plus grand, puis c'est envers lui que tu irais en premier pour faire preuve de déférence. Lorsque tu es prosterné devant Dieu à l'adorer, à voir sa beauté, à dire « j'aimerais t'embrasser, mais j'ose pas t'approcher. Tu es tellement grand. » Tu n'es pas en train de te prosterner devant d'autres dieux. Tu n'es pas en train de te prosterner devant tes citernes crevassées. Tu es venu seulement devant Dieu pour l'adorer. Et Jésus enseigne cette femme en disant « Dieu est esprit. » Dieu n'est pas un esprit parmi les esprits. Non, Dieu est esprit, il est immatériel. C'est beau Jérusalem, Garizim, non. Mais même Jérusalem, le temps vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs vont adorer en esprit, spirituellement. Ils vont adorer en esprit et en vérité. Et Jésus est en train de faire allusion à ce qu'il a déjà annoncé à Nicodème, à ce qu'il va continuer à annoncer dans les chapitres qui viennent. L'Esprit de Dieu va venir en toi et tu vas connecter avec Dieu. Tu vas l'adorer en esprit et selon la vérité. Et quelle est cette vérité? Jésus-Christ est la vérité. Jésus lui dit, « Le Messie que tu attends, c'est moi. » Jésus lui donne la vérité. C'est fascinant parce que dans ce passage-là, Jésus dit « Dieu est esprit », mais on est dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean commence avec le chapitre 1, évidemment. Au chapitre 1, qu'est-ce qu'on lit? Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, verset 14, et la parole a été faite chair. Et c'est en train de parler de Dieu le Fils qui devient un homme. C'est vraiment intéressant. Jésus dit que Dieu est esprit, mais Dieu le Fils est devant elle. Littéralement. On est dans Jean, là, je suis toujours dans le même texte. Dieu le Fils n'est plus esprit. Il s'est incarné parce qu'il est allé vers les marginaux, parce qu'il a franchi la distance, parce qu'il est venu vers nous. Et il se révèle à elle, lui, la vérité, le chemin et la vie. Il se révèle à elle afin qu'elle puisse entrer en communion avec lui. Qu'elle puisse l'adorer, afin de ne pas adorer ses citernes crevassées, mais qu'elle puisse se tourner vers lui uniquement. Entrer dans cette relation profonde où tu trouves la paix enfin. Quand tu connais Jésus-Christ, ton cœur peut se reposer de toutes ces poursuites, de toutes ces soifs qui te détournent inutilement des citernes crevassées qui ne vont jamais rassasier ton âme. Ce sont des patchs que tu mets sur une soif plus profonde que Dieu seul peut combler. Mais quand tu découvres que Jésus-Christ est ce Dieu merveilleux qui s'est fait homme, qui a franchi la distance, qui est venu vers toi et moi, pour entrer en relation avec toi et moi, qui est venu nous faire connaître le Père qui est esprit, qui est invisible, mais qui est devenu visible, qui va vers cette femme à qui un juif ne parlait pas et qui lui dit, « Donne-moi pas seulement de l'eau, laisse-moi te donner l'eau de la vie éternelle, afin que ce soir tu te couches en disant, « J'ai rencontré, j'ai trouvé le Sauveur des hommes. J'ai trouvé le Messie. » Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Voyez-vous, pour apprendre à annoncer l'Évangile, il faut déjà être nous-mêmes bouleversés par le fait que Dieu met de côté tout ce qui l'empêcherait de venir vers toi, vers moi, vers nous. Et que Dieu nous invite à entrer dans une relation surprenante, dans une conversation improbable. Si tu crois encore que tu étais assez cute, assez fin puis assez sain pour que Dieu s'approche de toi puis qu'il te dise « Hey, donne-moi de l'eau », c'est que tu ne connais pas Dieu. Mais si Dieu se révèle à toi, tu vas comprendre que la probabilité que Dieu s'approche de toi et qu'il te laisse entrer dans sa présence, sans l'intervention de Jésus-Christ qui vient mourir sur la croix pour tes péchés, tu vas réaliser que c'était impossible. Mais si tu as placé ta foi en Jésus-Christ comme moi, tu sais aujourd'hui que tu es chrétien. Détourne-toi de ces citernes crevassées vers lesquelles nous tendons à retourner. L'histoire que je vous ai racontée concernant mes enfants, je n'étais pas seulement chrétien, j'étais pasteur. J'enseignais la parole de Dieu depuis des années. Et pourtant, mes enfants étaient dans ma vie, des citernes crevassées. Parce que je les aimais d'un amour qui était malsain, voulant les protéger du Dieu qui les aime plus que moi. Est-ce qu'il reste des citernes crevassées dans ta vie? Tourne-toi vers Christ. Lui seul peut assouvir. Et si tu ne connais pas Jésus-Christ, je te dis, sois attentif aux cris de ton cœur quand tu es vraiment frustré, vraiment en peine ou angoissé. Voilà tes soifs. Et pose-toi la question, vers quoi est-ce que je me tourne qui pourrait combler ces soifs-là mieux que Dieu? La réponse, c'est il n'y a rien qui peut combler ce que Dieu seul peut combler. Et si tu viens te prosterner devant Dieu, si tu viens l'adorer de tout ton cœur, les choses vont tomber à leur place, dans l'ordre où ils doivent aller. J'aime mes enfants. Je donnerai ma vie demain matin pour n'importe quel des deux. N'importe quand je donnerai ma vie sans réfléchir. Mais je les aime moins que j'aime Dieu. Et j'ai plus confiance en Dieu pour prendre soin d'eux que moi je pourrais le faire. Gloire à Dieu. On va prier. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence, reconnaissant qu'on a tendance à avoir, nous aussi, Seigneur, des préjugés. Il y a des gens vers qui nous n'irions pas naturellement, Seigneur. On les éviterait. Je ne prendrais pas un verre d'eau de la part de n'importe qui. Et pourtant, Seigneur, à cause de l'Évangile, ces préjugés-là tombent. Grâce à l'Évangile, Seigneur, j'aime aller vers les marginaux. J'aime aller vers les marginalisés. Grâce à l'Évangile, Seigneur, j'entre en relation avec des gens. Ça aurait été tellement improbable pour moi d'être en relation avec ces gens-là. Parce que toi, Jésus, t'as couvert la distance, tu es venu vers moi. Tu es entré en relation avec moi. Et Seigneur, tu as détourné mon cœur de toutes mes citernes crevassées pour me rassasier de cette eau vive, qui ne vient que de toi, Seigneur. Ouvre nos bouches cet été, Seigneur. Donne-nous de témoigner de toi, de parler de toi, de t'annoncer aux gens autour de nous qui ont toutes sortes de soifs dont ils n'ont souvent pas conscience, Seigneur, qui cherchent à combler un vide avec des choses tellement pâles qui ne peuvent rassasier comme toi seul peux le faire, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.